Bien, nous ouvrons la parole de Dieu ce matin dans le livre des psaumes, le psaume numéro 2. Et nous allons, Dieu voulant, commencer trilogie, c'est très à la mode, n'est-ce pas? Trilogie de trois messages qui vont être relevés. Donc, premier message, nous allons regarder le psaume 2 et nous allons voir le roi invincible. Comme on a donné comme titre. Je donne lecture. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leur chaîne, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et c'est la parole de Dieu. Donc on se penche ce matin sur une portion de l'Écriture qui est très connue. C'est une portion aussi qui est très actuel. Il est même difficile, quand on lit ces lignes, d'imaginer qu'elles ont été écrites il y a plus de 3000 ans. C'est aussi un passage très complet et très clair dans la déclaration de l'Évangile de Christ. Et j'espère que nous allons le voir. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est à la dérive. Et c'est de plus en plus évident, il semble. C'est comme une barque emmenée par un courant tumultueux. Notre époque semble avoir perdu tous ses repères. Et la chose s'accélère à mesure que la barque s'approche du terrible tourbillon qui vient et que tout le monde essaye d'oublier, mais qui vient certainement. Et nous voyons aujourd'hui une vraie implosion de tout ce qu'on a connu. On voit aujourd'hui des perversions qui deviennent monnaie courante dans la société, qui auraient fait rougir de honte, même Sodome et Gomorre. Et il ne semble plus y avoir de pilote dans l'avion, si on peut dire. C'est très affligeant. Et chaque jour qui passe, empire. Mais il y a quelque chose de plus affligeant encore dans la situation actuelle. C'est de voir les chrétiens, même des chrétiens authentiques, réagir de manière si inadéquate face à la situation. Comme je l'ai dit, des tumultes chaque jour qui se déchaînent. Et certains, même parmi les chrétiens, deviennent des experts en géopolitique. Des experts en ceci, des experts en cela. Combien de choses ont été écrites sur l'épidémie de la Covid par des gens qui devraient prêcher l'Évangile, par exemple. D'autres chrétiens sont tellement submergés par l'horreur de l'atmosphère ambiante qu'ils se réfugient dans des genres de bulles d'émotions, imperméable à ce qui les entoure. On cesse d'être touché par ces choses. D'autres encore deviennent complètement blasés et acceptent l'ambiance actuelle comme quelque chose de normal, on n'y peut rien. Et est-il nécessaire de dire que toutes ces réactions sont totalement inadéquates et qu'elles sont même honteuses? Pourquoi? Et la question se pose, que faire alors? Qu'est-ce que moi je peux faire, petit moi, devant ce mastodonte d'impiété qui semble tout emporter sur son passage? Que faire? Et je pense que c'est au cœur de chacun. Eh bien, que faire? Tout simplement ce que ce vieux psaume moderne fait, prêcher la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ seul. C'est exactement ce que ce psaume fait. Dépeindre Dieu tel qu'il est et annoncer Christ tel qu'il a été désigné et puis appeler tout homme, tout être humain à venir se soumettre au Sauveur. Voilà ce que le psaume fait et voilà ce que nous devrions faire en tant que croyants dans une situation telle que la nôtre. Avant d'entrer dans l'étude du psaume proprement dite, un mot sur sa structure. Il est formé de 4 couplets, et chaque couplet est composé de 3 versets. Chaque couplet fait intervenir un orateur différent. Nous avons ainsi les paroles des rebelles, puis les paroles de Dieu, viennent ensuite les paroles du Messie, et enfin une parole d'admonition, d'exhortation et d'invitation. Donc on a une structure très simple. Le psaume 2 est très parallèle à celui qui le précède. Le psaume 2 termine, en fait, où le psaume 1 commence. Béni, heureux tous ceux. C'est ainsi que le psaume 2 se termine. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et le psaume 1 a commencé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, celui qui se réjouit dans la loi de l'Éternel. Donc on a ici une unité, en fait, avec ces deux psaumes. Mais entrons dans le psaume 2. Premier point, l'insurrection contre Dieu. L'insurrection contre Dieu. Le psaume 2 commence avec une question et une image. En fait, c'est plutôt une exclamation devant la folie et le ridicule de la situation. Beaucoup d'agitation en raison de pensées vaines. Celui qui écrit ici ne comprend pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tant de bousculades pour en fait ce qui est une illusion? Et quelle est l'image? C'est celle d'une mère déchaînée qui ne connaît aucun répit. Il parle d'un tumulte. Et c'est exactement cela. Nous sommes en présence d'une grande commotion, de gens qui se soulèvent, des gens qui se liguent, qui veulent briser des chaînes, qui veulent se délivrer, des gens qui se préparent à la guerre. Et c'est l'état naturel de l'homme pécheur. Il n'a pas de repos. C'est le tumulte, c'est l'opposition, c'est les ligues, c'est toutes ces choses-là, sans cesse, au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau global. Et c'est ce que nous voyons. Quelle est l'étendue de cette situation? Est-ce que c'est simplement localisé, réduit? Non. Non, regardez, ce sont les nations, les peuples. Ce sont les rois de la terre. La situation est universelle. Et il suffit de voyager, de rencontrer des gens de toutes sortes de cultures. Et où qu'on aille, on trouve la même situation. C'est une situation qui est commune à l'être humain. Nous voyons la même chose au psaume 1, sur un plan plus individuel. Là, il y a le conseil des méchants, la voix des pécheurs, la compagnie des moqueurs. Voilà C'est toujours la même chose. Un monde qui est en tumulte, incessant. Et une autre question, quelle est la cible de cette opposition, de ce tumulte? Le verset 2 le dit très clairement. C'est contre l'Éternel et contre son oint. Voilà la cible. Mais veillons à bien saisir de quoi le psalmiste parle. Il ne s'arrête pas à l'opposition du cœur pécheur contre Dieu. Non, c'est beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus profond. C'est contre l'Éternel et contre son oint. Il est question ici du Dieu de l'Alliance, Yahvé, et de son Messie, celui qu'il a promis d'envoyer. En réalité, la rébellion du cœur pécheur n'est pas contre Dieu d'une manière générale et indéfinissable. De ce côté-là, l'homme n'a pas trop de problèmes, tant qu'on n'entre pas dans les définitions. C'est en fin de compte contre le Dieu de l'Alliance et contre l'Alliance de Dieu que se lève l'opposition du cœur humain. Les nations, les peuples, les rois, les princes se liguent et se soulèvent contre l'autorité que Dieu a investie dans son Messie. Et on a cela dans l'expérience. On va parler du salut, on va parler de la Bible, on va parler de toutes sortes de choses. Et on peut avoir une certaine latitude. Les gens vont nous écouter, n'est-ce pas? Mais arrive un moment où on doit parler de Christ seul. Et là, c'est la guerre, n'est-ce pas? C'est la guerre. Donc c'est contre cette autorité que Dieu a investie dans le Messie. Et c'est bien l'histoire de notre race. Le cœur pécheur est, et il ne peut que haïr ce que Dieu fait en Christ. Toutes les autres composantes de la situation du monde ne sont que des conséquences ou des fruits de cette attitude fondamentale. L'esprit et la volonté de l'homme pécheur ont déterminé cette insurrection contre Dieu. L'homme ne veut pas de Christ. Et nous voyons cela de toutes parts. Voilà pourquoi les grands conseils sages en géopolitique ne servent à rien. Parce que le lendemain, on se réveille et la situation a changé d'une manière imprévisible. Le cœur pécheur est en furie et il veut être en furie. Il ne peut pas s'empêcher d'être en furie. Et nous voyons cela même dans notre propre cœur par nature, contre l'autorité de Dieu. Passons au deuxième couplet, la deuxième strophe, si on peut dire, l'indignation de Dieu. Ce deuxième couplet s'ouvre avec une toute autre perspective de la même scène. On a été dans le tumulte, notre regard s'est porté sur ce tumulte de rébellion qui étreint les hommes, un tumulte de vaines pensées. Et maintenant, nous levons les yeux vers Dieu. Et tout est différent. Dieu est-il en train de rassembler sa propre armée, d'appeler ses alliés, de faire des alliances, de se mettre en marche? Pas du tout, pas du tout. Premièrement, il est dans les cieux. Il est hors de tout le tumulte. Dieu n'est pas un homme. Il est dans les cieux et il siège. Alors, il y a deux idées ici. Premièrement, il est calme. Deuxièmement, il est en contrôle. Il ne siège pas sur un tabouret, il règne. Les hommes s'affairent, se liguent, s'irritent, se soulèvent, mais ils ne peuvent pas atteindre Dieu. Il est hors d'atteinte et il règne. Et puis nous lisons qu'il rit. Nous lisons qu'il se moque d'eux. Quel contraste, en fait. D'un côté, les grincements de dents, de l'autre, le rire et la moquerie. Et ce n'est pas le rire de la légèreté dont nous lisons ici. Ce ne sont pas les blagues innocentes. Non, en fait, c'est la justice de Dieu qui s'exprime dans ce rire, dans cette moquerie de ces hommes impuissants. Aucun de ses ennemis ne peut toucher ce qu'il fait. Il est en parfaite sécurité. Au verset 2, nous avions Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Ici, nous avons le Seigneur, c'est un autre mot, c'est celui qui règne. Et c'est un appel à chacun de nous qui sommes chrétiens. Notre Dieu règne effectivement. Nous allumons la radio ou la télévision, nous regardons le journal avec les nouvelles et tout ça, et on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'arrive pas à vraiment expliquer, mais on sait, le Dieu, qui est notre Dieu, par sa grâce, règne effectivement. Il rit, et puis il parle. Il leur parle dans sa colère. Il parle à ces gens qui sont dans le tumulte, et il leur parle dans sa colère. Là encore, nous avons l'expression de la justice de Dieu. Il y a des gens qui ont des difficultés avec cette colère de Dieu. Mais en même temps, ils aimeraient que Dieu soit juste. Mais Dieu ne peut pas être juste sans être en colère quand il est en face de la rébellion. Dieu est juste. Et c'est un énorme encouragement pour le croyant. Le croyant se régale de la justice de Dieu. Parce qu'un jour, il sait que grâce à cette justice, il sera complètement délivré du péché. Mais pour l'ennemi, cette justice est colère en fait. Plus encore, Dieu épouvante le cœur impie, car son alliance est sûre. Il y a des gens qui parlent avec légèreté de la mort, n'est-ce pas? Mais si on les regarde attentivement et dans la durée, on s'aperçoit que à mesure qu'ils prennent de l'âge, ils en parlent moins légèrement, parce que ça s'approche, n'est-ce pas? Mais ici, le cœur impie est épouvanté parce que l'alliance est sûre, et l'homme le sait. Le tumulte parmi les nations est une agitation toujours présente, comme les vagues ne cessent de retourner au large. C'est sans cesse ainsi, mais Dieu a une alliance sûre. On a ce monde qui, sans arrêt, est en mouvement et n'accomplit rien. On n'a pas l'impression que quoi que ce soit a été appris des leçons du passé, n'est-ce pas? L'alliance de Dieu, elle, est faite. C'est quelque chose qui est établi. Et c'est ce que Dieu dit ici. C'est moi qui ai oint mon roi au passé. C'est déjà fait. Faites ce que vous voulez. Excitez-vous autant que vous voulez. C'est fait. Et ce n'est pas fait n'importe où. L'alliance, le cœur de l'alliance, ce oint, celui qui a reçu l'onction, c'est sur Sion, ma montagne sainte. C'est là dont il est dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Sion, c'est Jérusalem. C'est la ville où la promesse d'un roi éternel est donnée. Un roi qui est aussi un sacrificateur éternel, dont le sacerdoce n'a pas de fin. C'est la ville de la paix, car le sang de Christ réconcilie et couvre les fautes. Ce qui était annoncé en image sur le propitiatoire, une fois l'an, n'est-ce pas? Le sang de Christ réconcilier, couvre les fautes. Sion, enfin, c'est ce grand corps de Christ qui jouit de la paix. Étant donc justifié par la foi, dira Paul, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il en rajoute une couche quelques chapitres plus loin. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est l'alliance qui est faite en Sion. C'est là que celui qui a reçu l'onction accomplit l'alliance. Alors pourquoi les nations, les peuples, les rois, les princes ne viennent-ils pas vers cette paix si magnifique? Parce que venir veut dire abandonner, ça veut dire s'humilier, ça veut dire mourir à soi. Et le cœur de l'homme, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ne le peut pas. Et il ne le peut pas parce qu'il ne le veut pas. Il est prisonnier. Il est dans ce carcan de la rébellion, du péché. Donc nous avons vu l'insurrection contre Dieu, l'indignation de Dieu. Maintenant passons à la troisième strophe, l'intention de Dieu. Il y a un changement d'orateur pour ce troisième couplet. C'est au verset 7, regardez, c'est pas si évident que ça, mais « Je publierai le décret ». Et maintenant, on parle de l'Éternel. Donc, ça n'est plus l'Éternel, en tant qu'Éternel qui parle. C'est le verset 7 fait mention du roi qui a été oint de toute éternité. Le voici maintenant, lui qui parle. Et quand il parle, c'est pour déclarer sa légitimité. Il est l'objet d'un décret. Maintenant, le décret est publié et il a force de loi. Cela nous renvoie à l'alliance faite à David, en 2 Samuel, chapitre 7. Dieu a fait une promesse. Vous vous rappelez, David voulait bâtir une maison à l'Éternel. L'Éternel lui dit, non, c'est pas à toi de décider. C'est moi qui vais te bâtir une maison, qui va en fait envoyer celui qui va accomplir l'alliance. Dieu a fait une promesse. Le décret est donc inamovible, irréversible, irréfutable, et il est impossible de le détruire. C'est fait. Et c'est pour cela que l'Éternel rit. Ce décret de Dieu est une certitude parce que tout l'être divin est impliqué. Le Père a engendré le Fils. Non pas comme cela se passe parmi les hommes. En fait, l'hébreu a trois mots pour engendrer. Alors, un de ces mots, c'est le mot qu'on utiliserait pour la sage-femme, l'instrument, elle a mis au monde, on dira plutôt, n'est-ce pas? Un autre de ces mots, c'est utilisé pour le père, c'est-à-dire le géniteur, il a engendré, n'est-ce pas? Et puis, il y en a un troisième mot, qui concerne la mère, qui met au monde. Et ici, dans notre verset, le Père céleste met au monde comme une mère. Il est intimement impliqué dans cet engendrement. Et le Nouveau Testament montre bien que c'est de la résurrection dont il est question ici. La résurrection de la tête qui atteste de celle du corps. Christ est ressuscité et donc un jour, le corps de Christ connaîtra la résurrection qu'il connaît déjà. En partie, n'est-ce pas? Et l'engendrement est toujours là. C'est un engendrement éternel, parce qu'il dit « Je t'ai engendré aujourd'hui ». C'est l'aujourd'hui biblique, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'Église est une possession éternelle du Fils. Jour après jour, tant qu'il est dit « Aujourd'hui », il rassemble ses élus, car aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il rassemble ses élus, il rassemble ceux qui lui ont été donnés par le Père. Aujourd'hui est le jour du salut et le Fils est le détenteur du décret. C'est pour ça que Paul l'a encore dit, il a plu à Dieu de faire cela. La parole de Dieu vient et retentit. Elle plonge les impies dans la terreur. Elle attise la colère du méchant, car il ne supporte pas les liens et les chaînes, c'est-à-dire toutes les limites que Dieu lui met. Mais il brise aussi le carcan qui retient esclave, celui qui a été aimé de toute éternité. Cette même parole, qui est une odeur de mort pour l'un, est odeur de vie pour l'autre. Et cette parole continue de briser tout ce qui le retient à cette rébellion de sa nature. Jour après jour, la parole vient et l'Esprit l'applique à ce cœur. Et il y a cette croissance dans la grâce qui passe aussi par les chutes. Oui, le Seigneur, Adonai, celui qui règne, il peut rire, il peut se moquer. Le décret est promulgué, le décret est en vigueur. Le roi a reçu l'onction et il règne. Il exerce sa souveraineté légitime. Il laisse l'un à son tumulte, à sa rébellion. Un tumulte et une rébellion que l'autre aime, n'est-ce pas? Qu'il veut. Le Seigneur le laisse. Il est roi. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est un exercice de sa puissance, en fait. Et il touche dans sa grâce et dans sa miséricorde jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a rien qui retient son bras. C'est pour ça qu'on parle d'un salut qui est invincible. L'esprit, quand il agit, ne peut pas ne pas accomplir ce qui est prévu. Et maintenant, venons-en au dernier couplet, l'invitation de Dieu. Nous avons vu l'insurrection de l'homme exprimer toute sa futilité, des pensées vaines. Puis nous avons vu l'indignation de Dieu se manifester dans tout le calme de sa puissance et dans la solidité de son alliance. Et c'est très important pour nous. Après quoi, le Messie a montré sa légitimité. Il n'est pas n'importe qui, il a été marqué du poinçon qui marque sa légitimité. Et il a parlé, il a montré l'éternité de son onction jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la fin de cet âge. Et maintenant, une quatrième voix se fait entendre. Et qu'est-ce qui est dit? En fait, nous avons ici l'Évangile. L'Évangile. Oui, la rébellion est réelle, elle est invétérée et elle est impie. L'homme ne peut pas ne pas se rebeller et il ne veut pas ne pas se rebeller. On n'est pas une victime. Oui, Dieu est souverain. Il est aux cieux et il fait ce qu'il veut. Il a voulu la victoire de Christ et Christ a remporté la victoire. Et oui aussi, Christ est celui qui est désigné et victorieux. Alors, ça entraîne des conséquences qui sont lancées comme une invitation. Soyez sages, premier sous-point, soyez sages. Vous les grands, vous les sages de ce monde qui êtes dans le tumulte de vos vaines pensées, soyez vraiment sages de la sagesse de Dieu. Cessez vos bruits, cessez vos paroles, écoutez, recevez instruction. Laissez Dieu parler, laissez-lui, donnez-lui la place, donnez-lui sa place. Et c'est quelque chose de terrible. Nous voyons le monde, qu'il soit profane ou religieux, c'est la même chose, n'est-ce pas? Nous voyons le monde qui est en train de courir après des illusions. Et tout au long, quand on a les yeux vraiment ouverts sur la parole de Dieu, tout au long, on voit que la solution est là, sous leurs yeux. Et rappelons-nous, quand nous étions dans notre impiété nous-mêmes, c'était là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une vue nouvelle qui est donnée. Et ça devrait nous pousser à pleurer pour ce monde et à prier avec instance que le Seigneur convertisse ceux qui sont autour de nous. Parce que c'est vraiment la plus grande futilité qu'on peut imaginer. Donc, soyez sages. Voilà l'invitation de l'Évangile. Deuxième partie, deuxième invitation, servez avec crainte. Arrêtez de vous dresser ridiculement contre l'Éternel. Voyez que la soumission, qui est mortelle pour la chair, cette soumission produit un fruit paisible de justice. Elle libère de l'emprise de la mort, elle produit la joie, pas une joie sans consistance, pas une illusion asservissante, mais la joie de l'enfant, du fils qui connaît son père. Et c'est une joie qui est riche, qui est complexe, qui est pleine, en fait. Parce que la joie de l'enfant, imaginez, l'enfant, il sait qu'il est en sécurité. Il sait que tout va lui être pourvu. Il ne doute pas. Je me rappelle une fois être en Afrique, et on devait prêcher dans un, une toute petite pièce, et c'était le temps des vacances. Et alors, dans la rue, il y avait à peu près 1 million de gamins. Enfin, ils faisaient le bruit d'1 million de gamins. Et toute la matinée, ça n'a pas arrêté. Alors, il fallait parler fort, il fallait essayer de faire abstraction de tout ça. Mais à aucun moment de toute cette matinée, aucun de ces gamins dans la rue ne s'est demandé, est-ce qu'il va y avoir à manger au moment du repas? Pourquoi? Ils avaient le Père. Ils avaient le Père. Et c'est cette joie, n'est-ce pas? C'est presque, on pourrait dire, insouciance. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais nous connaissons le Père. Et voilà, servez-le avec crainte. Mais je ne le peux pas. Oui, c'est là le problème, n'est-ce pas? Et c'est donc pour cela qu'il faut faire appel à la puissance de Dieu. Soyez sages, servez avec crainte. Rendez hommage à l'oint de Dieu, à celui qui a reçu l'onction, à celui qui a été désigné. Et ici, c'est l'image de l'allégeance du vassal. Hein, on se rappelle les histoires de chevaliers, n'est-ce pas? Le vassal venait devant son suzerain et il était vraiment à rendre hommage, dans la soumission. Toi qui te considères aujourd'hui comme le maître de ta vie, dépose tes armes de plastique et viens te prosterner devant le vrai roi. Voilà l'invitation. Celui qui a reçu l'onction. Ne continue pas dans la voie de ton tumulte, la voie de ta grande sagesse. Non, sors du conseil des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne t'assieds plus sur le banc des moqueurs. La rébellion entraîne la perdition, car Dieu est à la fois puissant et juste. Mais ce n'est pas obligatoirement la fin. Et c'est pour cela qu'il y a toujours cette annonce de la bonne nouvelle et l'espérance. Mercredi dernier, on a parlé de l'espérance, n'est-ce pas? C'est cette assurance que finalement la victoire non seulement a été remportée, mais sera manifestée et parviendra à sa consommation, à sa plénitude. Ce n'est pas obligatoirement la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre invitation, une autre recommandation, heureux ceux qui se confient. Et là, l'invitation se dirige en direction de ceux qui sont pris dans le tumulte encore. Ouvre les yeux sur ce grand Dieu, un Dieu absolument souverain, absolument juste. Un Dieu qui est tellement souverain, tellement juste qu'il ne peut pas tolérer le mal. Vois comme il est vrai et comment il rétribue certainement le méchant. Il y a toujours dans le cœur humain cette semence qui a été mise par le tentateur, cette semence du mensonge, de se dire que finalement, d'une manière ou d'une autre, tout va retomber sur ses pattes. Non, non. Un jour, il y a la rétribution et cette rétribution sera juste. Il rétribue certainement le méchant dont il est mention ici. Mais écoute aussi sa parole. Il est le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu parfait, ce Dieu juste, ce Dieu intraitable, on pourrait dire, il est aussi le Dieu de l'Alliance, le Dieu de grâce. Il a pourvu la victime sainte. Il y a encore quelque temps, on pensait à cet épisode quand Abraham monte sur la montagne avec son fils, n'est-ce pas? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quel merveilleux message! Il a été pourvu, n'est-ce pas? Alors, l'invitation vient à lui. Et puis, comme c'est toujours le cas, proclame sa grâce. Que cette vie nouvelle puisse être un témoignage à la grâce de Dieu. Et dans un monde, dans un jour tel que le nôtre, ou peut-être plus que depuis des années, on voit ce tumulte venir à la surface. Dans un tel monde, voilà comment l'homme doit se conduire. Et voilà comment l'enfant de Dieu doit se conduire. Nous avons ce Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons toujours entendre parler toujours davantage de lui. C'est ce Dieu merveilleux, qui est en contrôle, qui est parfait. Et nous, nous avons ce Dieu et il a pourvu la solution, la réponse à ce tumulte, à ce qui fait ce tumulte, c'est-à-dire le cœur de l'homme qui est irrémédiablement tourné contre lui. Dieu l'a a déjà amené, le remplaçant, le substitut. Et c'est en lui. Et il n'y en a pas d'autre. Et en fait, cette solution, ce remède, correspond exactement au mal. C'est dans la solution de Christ seul que le mal est englouti. Et là encore, ça n'est pas avec des efforts, ça n'est pas avec ma compréhension, ça n'est pas avec mon désir, non. C'est avec la puissance de Dieu par son esprit. Et que quiconque s'aperçoit du tumulte dans lequel il est, se tourne vers ce Dieu et l'implore de lui donner ce Saint-Esprit qui permet de se saisir de la promesse qui est en Jésus-Christ. Que chacun d'entre nous, nous ayons conscience de la merveille du salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. C'est en fait taillé sur mesure. C'est exactement ce dont on a besoin. Et que nous soyons dans la joie, une joie remplie d'adoration face à cela. Parce que si Dieu rit dans les cieux, ça n'est pas méchamment. C'est d'une manière juste, c'est parce que c'est fait. C'est fait. Il sait que son peuple sera un jour avec lui, dans sa présence, réconcilié. Pourquoi ? Mais déjà aujourd'hui, tout autour de la terre, il le voit, non pas dans sa présence effective, mais quand même devant lui, à l'adorer. Et seul son esprit peut faire cela, un esprit qui le fait en vertu de ce que Christ a fait. Que le Seigneur nous donne de nous réjouir, que le Seigneur nous donne de venir à lui avec sagesse, dans la crainte, en voyant que Christ est celui qui a été donné. Amen.